Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Daniil Medvedev. Bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 ans dans les vestiaires du Queens. Il venait de perdre contre Dimitrov et je l'entends parler français. Il dégageait quelque chose d'attachant, une nonchalance charmante. Malgré son succès, il a gardé ce charme. Ce n'est pas antinomique, c'est peut-être même un ingrédient. Je suis sur la terrasse qui surplombe le cours central du Monte Carlo Country Club. Il fait 15 degrés, je le vois arriver avec sa femme. Le soleil brille sur la Méditerranée et la vie est belle. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour Daniil Medvedev, on se vous voit ou on se tutoie?
Toi. Ouais, c'est plus facile, c'est plus simple.
D'accord.
Comme ça l'interview devient plus simple.
Ben, les gens qui nous écoutent peuvent s'en rendre compte, tu parles très bien français. Comment ça se fait?
Bon, c'est déjà 5 années et quelques que j'entraîne en France, à Cannes, au club Elite Tennis Center, avec Jean-Lénaire Lisnard et bien sûr mon entraîneur Gilles Servara au départ. Et petit à petit, je commençais à apprendre français. Et là, je peux parler. J'aime pas de dire bien, mais pas mal et je comprends presque tout.
T'es venu à quel âge en France?
J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, c'était la première semaine à club, à ce club-là, à Cannes. C'était avant Roland-Garros Junior. Ça a plutôt bien se passait, si on regarde maintenant.
Pourquoi tu es venu en France?
En fait, c'est, on va dire, assez simple. En ce moment-là, dans ma carrière, j'ai pas vraiment pris des décisions. Donc, c'était mes parents qui me, on va dire, suivi et qui ont fait la carrière pour moi. Et à un moment, ils ont décidé, ce qui était la bonne décision, qu'en Russie, c'est plus possible de progresser tennistiquement, physiquement, avec tous les voyages, même sur les tournois, parce que tu joues les futurs, plutôt les juniors, c'est plus facile de voyager de France. Tout ensemble, ils ont décidé que si je veux devenir professionnel joueur de tennis, c'est pas possible de progresser en Russie. Et ma sœur, elle a habité ici, donc ils voulaient au départ être peut-être plus proche de ma sœur aussi, donc comme ça, c'est... Il y a que des bénéfices et ils ont trouvé ce club avec Jean-René Lisnard. Ils ont parlé avec lui et c'est comme ça que je suis venu ici.
Et ta sœur, donc, elle vivait déjà en France, elle faisait quoi? Elle travaillait ici?
Ouais, elle étudiait, elle n'a pas, on va dire, encore vivait 100%, mais là maintenant, elle habite toujours ici, elle a 2 enfants, elle a une mari français, donc ouais, elle est là pour longtemps.
Tu l'as mentionné, tu t'entraînes avec Gilles Servara, un entraîneur français donc. Est-ce que tu peux décrire votre relation?
Oui, bah, en fait, c'est très difficile parce qu'on on fait beaucoup de temps ensemble. On fait presque toute l'année ensemble. On se voit, je ne sais pas, 350 journées, quelque chose comme ça. Ça rigolait. Comme c'est normal dans toutes les relations comme ça, humaines, c'est très, on va dire, complexe. Mais ce qui est bien, je trouve qu'on a un caractère assez proche. Et à cause de ça, on peut bien se vivre ensemble avec des circonstances difficiles. Les circonstances difficiles, c'est joueur-entraîneur. C'est quand même une relation très spécifique avec laquelle ça peut être difficile de vivre. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup de fois, séparés avec cet entraîneur, quand quelque chose ne marche pas ou pas. Mais nous, on, par exemple, pour petite explanation, il y a beaucoup des équipes que je vois que s'il ne fait pas une dîner ensemble, l'entraîneur avec le joueur pendant le tournoi, c'est quelque chose qu'on, c'est pas possible, quoi. Nous, on s'entraîne bien ensemble. Si on veut faire un dîner, on va être très contents, on est bons amis. Mais si, je sais pas, soit moi, soit lui, on n'est pas en mood de le faire, il n'y a pas une qui va être défait pour ça, qui va dire comment c'est possible. Donc, on est vraiment, on partage beaucoup des choses qu'on pense le même et ça aide beaucoup dans la vie parce que, au départ, je trouve que le plus important, c'est comment vous vous sentez dans la vie normale et après, comment vous vous sentez dans le court.
C'est très important pour un joueur de tennis de bien se sentir hors du court avec son entraîneur.
Oui, même pas avec que de l'entraîneur, mais avec d'entraîneur aussi. Moi, je trouve que si tu ne sens pas bien, et ça veut dire, je sais pas, vous ne partagez pas les mêmes pensées. Et ça peut être difficile à quelques moments. Par exemple, vous êtes 2 années ensemble et là, tu dis, OK, je peux plus, je peux plus le faire, quoi. Je peux plus le supporter, on va dire comme ça. Et avec Gilles, c'est vraiment pas comme ça. Je sais pas ce qui va se passer après, mais en ce moment-là, franchement, on peut bien sûr se prendre la tête sur le terrain un peu ou quelque chose, ce qui est très normal, les relations humaines, encore une fois. Mais sinon, on sent très bien hors du court.
Ouais, parce que j'ai vu parfois, on regarde à la télé ou tout ça, on peut voir que c'est chaud entre vous, même sur le court, pendant les matchs. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'aide à évacuer une certaine pression ou la tension du match?
Oui, bien sûr. Quand je suis nerveux sur le terrain, c'est bien sûr des pressions. Parce que s'il n'y a pas de pression, t'es pas nerveux. Normal. Et bien sûr, au niveau qu'on joue, il y a beaucoup de pression. Et c'est à cause de ça que je peux être, pas facile avec mon équipe. Ce que j'aime pas du tout après le match en repensant de ça, mais c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie dès que j'étais jeune, donc c'est très difficile de le faire sortir. Et c'est ce que je travaille. Et donc, je pense que Gilles, il avait des problèmes, ce typage-là aussi, peut-être sur le tennis, peut-être sur la vie. Et donc, il comprend beaucoup de choses que je fais. Et on sait que c'est pas bien de le faire, c'est pas bon. Il faut travailler ça, mais il sait que c'est pas facile. Et donc, comme je dis, lui, il comprend beaucoup de choses que moi, je fais. Et à cause de ça, il essaie de m'aider. Et moi, s'il fait quelque chose, on va dire, qui ne me plaît pas, je comprends aussi. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de temps, on n'est pas en train de demander mais pourquoi il fait ça, c'est pas normal.
Ouais, parce que moi, je peux te le dire, j'ai déjà joué contre Gilles en tournoi ici, dans le sud de la France. Effectivement, ce n'était pas non plus un enfant de cœur.
Ah ouais. Moi, je ne sais pas parce que... j'ai pas vu, mais oui, ça se passe sur un train parfois que lui, il peut aussi être un peu nerveux.
En 2019, tu as fait un été de folie. Finale au Masters 1000 du Canada contre Nadal, finale à Washington contre Kyrgios, vainqueur Masters 1000 Cincinnati. Tu finis par une finale à l'US Open en poussant Rafael Nadal en 5-7. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais le sentiment d'avoir compris quelque chose avant cette période?
Franchement, je toujours sais pas vraiment ce qui se passait. Moi, quand je joue au tennis, télé junior, j'ai juste mon but, c'est d'essayer de gagner le match. Et donc, je viens à Washington après une Wimbledon assez difficile. Je perds contre David Goffin, un match très bon niveau, mais où j'avais 4-1 dans le 5e set sur gazon et j'ai perdu 6-4, si je me trompe pas, ou 7-5. Donc, franchement, une défaite pas facile, troisième
pas
tour.
Pas facile à accepter.
Ouais, où tu dis, pour les résultats, c'est pas bien. Parce que comme je dis, le match était bien, David, il a très bien joué, c'est un joueur très fort, mais si on parle que du résultat, c'est vraiment pas top. Je viens à Washington juste en espérant de faire quelques bons matchs avant des masters importants. Je fais finale en jouant très, très bien. Je suis dans le match contre Cilic, qui était vraiment très bien. Et match de Kyrgios où il y avait 0 balle de break pour chacun, donc très accroché. J'étais bien sûr déçu de perdre, mais j'avais mes possibilités, donc c'était un bon match. Et après, oui, comme tu dis, dans 4 semaines, je me retrouve à être finale, vainqueur à Cincinnati, finale à US Open, proche de peut-être même pas de gagner, mais franchement proche de faire quelque chose. Je peux pas dire parce qu'il y a match par match qui était différent. Par exemple, au US Open, il y avait, je trouve, qu'un match normal. C'était premier tour où j'ai bien joué, j'ai bien géré le match.
C'était contre
3-7, c'était contre Gunnes Varane.
Oui.
Et après, deuxième tour, je crampe. Franchement, je...
T'es contre des liens.
Ouais, je devrais...
C'est là tu pètes ta raquette.
Ouais, je devrais perdre le match parce que je crampais complètement. Mais je suis presque tombé sur le terrain, mais je me dis, OK, je vais pas retirer. J'essaie de... si je perds 6-0, 6-0, 6-0, je perds comme ça. J'arrive à gagner, je sais pas comment. Et il y avait jour de pluie avant. Donc, match de Lopez, le lendemain, après ce match où je crampe complète. Match de Lopez qui, encore une fois, lui, il a joué incroyable. Franchement, il a joué à un niveau monstrueux. Moi, j'avais des problèmes avec le public sur ce match.
C'est sur ce match-là que ça commence avec
ouais,
le public.
Ouais, j'étais,
on va y revenir après.
Ouais, j'étais pas bien sur ma tête. J'arrive à gagner un 4-7 accroché où je sors les balles de 7 au tie-break de 3e. Et peut-être si je le perds, j'arrive pas à gagner. Donc, vraiment très difficile. Après, au 4e tour, je joue Kopfer, que peut-être on peut dire...
qui sortait des qualifs.
Ouais, pour 4e tour, c'est quand même un tour facile. C'est rien contre lui, mais pour 4e tour, c'est un bon tableau. Et lui, franchement, il a joué à un niveau que j'ai pas attendu. Il a joué top 10, mais facile. Il avait 7 breaks d'avance. Et le même où je me dis, OK, j'ai bien joué. Et je dis, OK, je peux rien faire. Je joue contre Rafa. Je peux pas toucher une balle. J'arrive à gagner encore une fois un match très accroché. Donc, je suis en quart de finale, on va dire, assez miraculeux,
ouais.
Même si je joue bien. Et je joue Stan, que j'ai juste perdu là, il y a deux jours.
Pareil, on y revient.
Et au premier jeu du match, finalement, c'était rien, on va dire, trop grave parce que j'étais capable de finir le match et gagner le match. Je tire un peu le quadriceps.
Ouais.
Je le sentais tout de suite, mais parfois, ça peut être une spasme, pas l'étirement. Je continue à jouer et ça commence à être plus douloureux. J'ai le break d'avance en première set, mais je pense plus au résultat, je pense plus au tennis. Je me dis, est-ce que je vais être capable de finir le match ou pas? Et vraiment, sur le télé, ça peut voir que je m'en foutais parce que je faisais que des drop shots, je voulais pas courir. J'ai un peu rigolé avec moi-même en me disant que normalement, après le premier set, c'est ce que je me disais, je vais retirer parce que je peux plus bouger. Et je pense que dans l'énergie, ça se sent. Donc, Stan, il l'a senti. Je sais aussi comment ça se fait quand tu sens que le mec est blessé.
C'est pas facile à gérer.
Ouais, il faut lui juste pousser un petit peu et tu sais qu'il va pas tenir. Il avait balle de set où je voulais jeter la balle et juste aller, j'ai mis la balle dedans. Et finalement, je me retrouve à 1-0-7 pour moi. Deuxième set, il est tendu, il joue pas bien. Je trouve 2-0 pour moi. Et là, je dis, OK, même avec le quadriceps comme ça, là, il faut pousser. Et je gagne 4-7. Et après, ce qui était bien, j'avais deux jours. Donc, un jour, j'ai pas du tout entraîné. Un jour, entraînement très facile pour soigner mon quadriceps. Et on va dire, demi-finale, c'était encore déjà bien. Je me suis pas senti trop mal. Je me sentais bien et c'était un bon match. Et je me retrouve en finale, mais comme j'ai dit, tout ensemble, c'était, on va dire, miracle.
Ça, ouais. Ça a été une somme, une succession de choses.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, comme j'ai dit, là, en Australie, ça se passait. Je trouve un très bon match fait contre Stan. Lui, il fait un match monstrueux aussi. Et je perds, franchement, sans regret. Mais finalement, c'est pas le final, c'est 4e tour. Je reviens ici, je parle avec toi. Et, donc, tennis, c'est beaucoup de fois, c'est juste beaucoup de choses ensemble qui viennent se passer en ce moment-là.
Pendant l'US Open, tu as commencé à le mentionner, il y a eu une relation un peu haine-amour avec le public de New York. Est-ce que quand ça a chauffé, tu t'es dit, je vais les avoir contre moi pendant tout le reste de la semaine? Est-ce que tu t'es pas très bien senti?
Ouais, c'est ce que je pensais. Je pensais que là, c'est fini mon histoire avec New York. En plus, qui est... on va dire incroyable que finalement, au final, ça se passe, ça renverse les choses parce que...
Mais c'est toi qui as réussi à renverser les
choses.
Ouais,
moi, le plus important, c'est que moi, dès le début où il y avait la haine et dès la fin où il y avait l'amour, j'ai rien fait, on va dire, soit fake, soit même, j'ai pas pensé, OK, si je fais ça maintenant, après, ils vont m'aimer, j'ai juste été moi. Et s'ils me, on va dire, entre guillemets, détestent, OK, c'est comme ça, c'est... c'est pas, je vais pas sentir bien, mais c'est comme ça. Et à la fin, ça se passe comme ça. Et comme je dis, sans rien faire avec des deuxièmes pensées. Donc, ça, c'est bien. Mais ce qui est incroyable, que comme je dis, si ce match contre Lopez, que je peux bien perdre comme j'ai dit, un bon match, je pouvais le perdre en 5-7 et pas avoir des regrets, des trucs comme ça. Et il n'y a pas d'amour à la fin parce que c'est que ce match,
c'est vrai.
Ça se finit là et je ne sais pas comment je reviens cette année.
Et tu reviens
là, donc, comme je dis, beaucoup de circonstances que ça inverse le truc.
Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez avec Gilles après le match? Est-ce qu'il y a cet aspect à gérer là?
Ouais, celui-là, il est difficile à discuter parce que si c'est un petit truc, tu discutes, Là, c'était vraiment, il y a tout le monde autour de moi, ma femme, mon entraîneur Gilles, mon agent. Ça, c'est pas discutable.
Okay.
Ça, c'est juste, OK, il y avait ça. On l'a vu, on l'a senti parce qu'ils étaient dans le box à côté de tous les gens de tribune. Et ils sont sortis du terrain après avec toutes les gens. Et donc, c'est vraiment, tu vois, ce moment silencieux où tout le monde sait ce qu'il pense, tout le monde sait... ce qu'il faut pas faire, mais tout le monde est silencieux, quoi.
Ah ouais, ok, on garde le silence. Gilles, ton coach, j'ai lu quelque part qu'il disait que ta structure cérébrale était différente des autres joueurs. Je le cite. Hein. Il capte les choses et il les transforme en magie, en génie. Est-ce que tu te sens différent?
En première, je sais pas comment ils sont les autres joueurs par rapport à ça. Donc, franchement, je peux pas comparer ça. Parce que Gilles, au moins, il a entraîné, il toujours entraîne beaucoup de monde au club qu'on s'entraîne. Il n'a pas entraîné les top 100, donc, mais quand même, il a entraîné beaucoup de joueurs. Et je pense qu'il avait plutôt comparé moi à ces joueurs qu'il a entraînés. Parce que je pense que c'est là où il peut faire ça. Et moi, comme je dis, franchement, bien sûr, tout le monde est différent. Tout le monde se sent différent. Moi, j'ai mes trucs en tête. Genre, quand j'entraîne, parce que je peux péter le plomb, je peux être nerveux, tout ça. Mais le premier but de l'entraînement, c'est juste écouter ce que Gilles dit, essayer de le faire. Si ça marche pas, je lui dis, OK, Gilles, peut-être que ça marche pas. Et lui, il dit, non, je pense qu'il faut continuer. Ou OK, on change tout ça. Donc, franchement, le but, c'est la progression.
OK.
Et pour moi, à ce moment-là de ma carrière, comme je suis encore, on va dire, jeune, je suis pas 18, j'ai pas 18 ans, mais 24 ans, je veux vraiment voir où je peux pousser mon corps, mon cerveau, mon talent, parce que moi, je pense qu'il y a des limites, même s'il y a des gens qui disent que non, peut-être non, mais moi, je pense qu'il y a et je veux voir mon limite. Que je trouve, j'ai pas encore trouvé, mais je suis en train peut-être.
Tu sens que t'as pas trouvé ta limite?
Ouais, mais je vais en fait les trouver. Peut-être, on sait jamais, peut-être mon limite c'était l'été que j'ai fait, mais je veux savoir ça. Je veux savoir si c'était mon limite ou pas. Donc, chaque fois quand je suis sur entraînement, mon but c'est de progresser. Chaque fois quand je joue un match, n'importe si c'est ATP 250 ou un grand chelem, je veux gagner le match, je veux essayer de battre mon opponent. Et bien sûr, tout au long de vie, ça va changer un peu. Il y a des étapes dans la vie que peut-être à un moment, tennis, c'est pas aussi important qu'il était avant. Même pour les grands trois, je suis sûr que c'est comme ça. Il arrive quand même à jouer très bien. Donc, c'est intéressant, ça.
Après cet été et cette saison exceptionnelle 2019, tu as changé de statut, que tu le veuilles ou non. T'es passé de next gen à top 5 mondial, top 4 mondial. Est-ce que ça change quelque chose?
Oui, ça change beaucoup de choses et c'est très normal. C'est pour ça que moi, j'essaie de juste le prendre comme c'est. Tu peux voir ça dans tous les sports et si dans deux années, on va dire, je me blesse ou quelque chose. Et je tombe au-dessus de 100, ça va changer encore une fois sur l'inverse. Donc là, bien sûr, après US Open, après tous les résultats que j'ai faits, il y a beaucoup plus d'attention, de médias, des gens sur la roue. Mmh. Au l'aéroport, tu ne peux plus être tranquille, il faut mettre le capuche, tout ça. Mais comme je dis, moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais ce que je fais, pourquoi je joue au tennis. Et je me pas entendais que si je deviens numéro 4 ou 5 mondial, que je vais vivre tranquille comme c'était. Donc, je savais où je vais et bien sûr, ça change beaucoup de choses, mais je le prends que c'est normal.
Que ça change quelque chose sur l'attente, les médias, bien sûr. Est-ce que ça change quelque chose sur toi, tes objectifs, où tu te dis, bah, ah oui, ça a accéléré. J'avais peut-être ces objectifs-là où je me voyais peut-être faire ça dans 3-4 ans. Bah non, je les ai fait là, quoi.
Les objectifs, ça ne change pas vraiment parce que, comme je dis, mon premier objectif, c'est vraiment de toujours progresser et gagner des matchs. Et donc, ça ne change pas. Mais bien sûr, ça change des attentes, ce qui est très, très normal. Si avant, on va dire, je pouvais, quand tu es 50 mondial, tu perds contre quelqu'un top 10 ou top 20, on va dire, tu perds 6-4, 7-5. Tu sors d'un match, tu as des faits que tu as perdu, mais tu peux dire, OK, j'ai bien me battu. Ouais, j'étais pas loin. C'est bien de voir ça. Là, n'importe qui je perds, n'importe quel score, je veux gagner plus qu'avant, je dirais. Mais après, comme je dis, j'essaie de convaincre mon cerveau que, en première, ouais, il faut faire tout ce que je peux. Et si ça marche et je gagne beaucoup de matchs comme ça, c'est top. Mm-hmm. Si ça marche pas, il faut toujours, ouais, chercher des progressions et pourquoi, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout ça.
Tu fais partie de la génération qu'on appelle Next Gen avec Zverev, Tsitsipas, Rublev, Khachanov. J'espère déjà que tu t'entends bien avec eux parce que après le Big Three, bah c'est vous qui allez dominer le tennis mondial. Enfin, déjà, qui c'est le plus fort selon toi aujourd'hui dans ce groupe-là de joueurs?
Pour beaucoup de temps, je dirais Zverev, ouais. Parce qu'il était le plus jeune d'être là-bas. Il a gagné son premier master quand il avait 19 ans, si je ne me trompe pas. C'était vraiment très, très fort ce qu'il a fait. Et il a, entre guillemets, s'arrêté un peu. Mais moi, je rigole très bien quand il y a des gens qui disent « ouais, il est nul, il peut plus jouer parce que le mec, oui, il a fait pas la saison qu'il voulait, peut-être qu'on a attendu, mais il était quand même à Londres, il était en demi-finale de Londres.
T'as raison.
Il était septième ou sixième, même pas huitième.
Ouais. Il était septième à Londres.
Et franchement, il a fait quand même une bonne saison et là, il est en demi d'Australie, donc. En ce moment-là, c'est plus difficile à dire qu'avant. Parce qu'avant, je dirais Zverev, sans doute. Il était le plus fort sur classement, sur des titres, tout ça. Là, on peut dire que Tsitsipas, moi, l'année dernière qu'on a fait, c'était vraiment fort.
Bien sûr.
Et si on prend que l'année dernière, on était plus fort que Zverev. Mais comme tu vois là, il commence la saison plus fort que nous. Demi d'Australie, c'est franchement fort. Et il est en train de jouer là, je pense.
Ouais. Enfin,
peut-être il gagne, je ne sais pas du tout.
On va faire un point score plus tard.
Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens forts. Ouais. Et bien sûr, on prend d'expérience. On prend notre place. Shapovalov qui commence à jouer incroyable. Il est beaucoup plus jeune que nous, on va dire. Trois années plus jeune. Donc, je ne peux pas dire un, mais j'espère que ça va être une bonne compétition. J'espère qu'ils ne vont pas avoir une qui va gagner tout. J'espère qu'on va tous essayer de gagner beaucoup.
J'ai mentionné le Big Three. Tu as joué contre Federer, Nadal et Djokovic. Djokovic semble être le plus fort des trois en ce moment. C'est lui, qui, même si bien sûr Nadal a gagné l'US Open. Et toi, tu le joues deux fois l'an dernier et tu le bats les deux fois. Alors que tu as perdu contre les deux autres. Déjà, selon toi, pourquoi, en gros, tu es arrivé à être plus performant contre le meilleur?
Oui, en fait, c'est que la question de style, je dirais.
Okay.
Moi, j'aime bien jouer contre Novak. En termes de ce qu'il fait, moi, je sens capable de lui pousser jusqu'au bout presque tous les temps qu'on joue. Et dès le premier match qu'on a joué, et quand j'étais très jeune, et c'était au Coupe Davis. Oui, c'est que ça, par exemple. Pour moi, c'est très difficile de jouer contre Roger. Et en même temps, on n'a pas joué tous les deux quand je commençais à avoir plus d'expérience de ce niveau-là. Donc, c'est vraiment difficile. Et si on prend Rafa, c'est très difficile de jouer contre lui. En même temps, j'avais un match dans ma poche que je n'ai pas gagné. En ce moment-là, j'ai zéro victoire contre lui. Mais où vraiment, j'étais très proche de gagner le match. Donc, c'est très difficile de jouer contre tous les trois parce qu'ils ont quelque chose de différent. Je pense
que, qu'est-ce que c'est?
Julien peut te dire. Hein? Mais c'est juste que même ses frappes, ses balles, il y a quelque chose de différent de nous.
Mais même de vous qui êtes juste 4, 5, 6e mondial.
Moi, je trouve ça. Après, je sais
dans
pas
la si... raquette, c'est différent.
Ouais, dans le frappe. Et c'est par exemple, quand je jouais à Djokovic au ATP Cup, où je perds première 7-600, je jouais des joueurs forts,
ouais.
Et j'ai bien joué. Et là, je viens et j'essaie, entre guillemets, d'être un peu offensif au début du match. Et après, perdre 600, je me dis, OK, il faut changer. Lui, il joue pas comme les mecs que je jouais avant. Donc, il faut changer quelque chose. Je commençais à jouer plus lente pour que c'est lui qui agresse tout. Et il a commencé à avoir un peu du mal. Donc, c'est très, très différent. Il faut, ouais, c'est vraiment très difficile de jouer contre lui.
Est-ce que tu t'entends bien avec les joueurs français, en général?
Ouais, j'ai pas un meilleur ami de joueurs français, mais on s'entend bien. Après, la question, même si j'habite en France pour longtemps, la question de mentalité avec laquelle tu étais élevé, et tout ça, c'est quand même complètement différent.
Bien
c'est
sûr.
Pour ça que pour moi, c'est un peu difficile d'être vraiment dans le groupe français. Je parle même pas que des joueurs tennis de haut niveau, mais même de mon club, on va dire. Mais sinon, j'entends très bien avec tous les Français. Je pense pas que j'ai
de problème.
Quelqu'un, ouais, des problèmes avec une. On est bien amis.
Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est que j'ai observé chez les champions de tennis qu'ils avaient une rage, une sorte de feu intérieur. Est-ce que tu sais d'où vient le tien?
Tu parles sur le terrain ou sur la vie?
Je trouve que c'est lié, en fait. Je trouve qu'il y a les deux.
Ouais. Question intéressante parce que je sais que, bien sûr, pour faire des résultats que j'ai faits, il y a quelque chose, comme tu dis, le feu intérieur que j'ai. Mais je peux pas te expliquer d'où je le prends. En fait, moi, je trouve que je le prends du travail parce que j'ai toute ma vie, j'ai travaillé, mais il y a quand même des différents, on va dire, types de travail. Quand j'avais 18 ans, je sortais un peu, j'étais jeune. Et tu dis, OK, si je sors même une fois par semaine, ça va pas changer mon résultat à Australian Open d'un coup.
Ouais.
Mais à un moment de ma vie, j'ai décidé que, OK, comme j'ai dit, je veux voir mes limites.
Mm-hmm.
Et pour ça, je commençais à manger mieux, je commençais à dormir mieux, plus tôt. Sur le tournoi, j'essaye de vraiment pas perdre l'énergie pour quelque chose. Donc, j'ai vraiment, entre guillemets, commencé à devenir très, très pro.
Mm-hmm.
Et ça m'aidait beaucoup. C'est une des plus grosses décisions que j'ai fait. Et je trouve que le feu, il vient de là. Pas de, on va dire, de ma routine, de mon professionnalisme que j'ai décidé de mettre. Et si je perds ça, quelques moments, je sens que tout de suite, ça me rend un peu moins stable.
D'accord.
Donc, je trouve que c'est de là.
Est-ce que tu es devenu ce que tu as rêvé plus jeune?
Bien sûr. Comme je dis, quand je suis là, je pense que au futur et je me dis, OK, demain, il faut travailler, il faut entraîner, il faut courir, je sais pas quoi. Mais si on prend moi, quand j'avais soit 6 ans, soit même 14 ans ou même 21 ans, quand j'étais, on va dire, top 50. J'ai bien sûr fait beaucoup de choses que j'ai rêvé.
Tu disais, je veux être numéro un mondial quand tu étais petit.
Ouais, je trouve que, je sais pas, mais de ce que je me souviens, c'est tout le monde qui dit ça. Même celles qui n'ont finalement pas réussi à prendre un point ATP.
Bien sûr.
Quand tu es très, très jeune, moi, je me souviens, j'ai joué, comment ça s'appelle, au mur, contre le mur.
Bien sûr.
Et quand j'avais 8 ans, et je m'imaginais que c'est Rafa ou Novak.
Ouais. Moi, c'était Sampras et Agassi.
Ouais, c'est ça, qui joue contre moi. Et si, je sais pas, j'ai fait un drop shot au mur, je dis, OK, il a pas touché, 15-0 pour moi. Donc, truc comme ça. Et bien sûr, j'avais ça, ouais.
Tu viens du pays de Kafelnikov, de Safine. Qui étaient tes idoles quand tu étais jeune, ces joueurs-là?
J'avais jamais une idole. Pas toujours. Pourquoi? Parce que même quand j'étais jeune, je voulais être moi-même. sans me dire quelque chose de prétentieux, ça ne veut pas dire que je savais que je vais être quatrième mondial, je vais tout réussir, mais c'était, même si je ne deviens pas, je veux être moi, je ne voulais pas être quelqu'un d'autre. Je voulais être à l'intérieur de moi, je voulais être moi-même. Mais bien sûr, j'avais beaucoup de joueurs de tennis, les jeux de qui me plaît. Et Kafelnikov, je ne l'ai pas vu jouer, j'étais okay. trop jeune, mais j'ai vu beaucoup des matchs de Safin quand il a gagné des Grand Slam, quand il était très très fort, et c'était beau à voir.
Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un, nous, je sais que dans le tennis français, les anciens joueurs sont là, donnent pas mal de conseils à la génération qui en ce moment joue. Est-ce qu'il y a une communication avec ces joueurs-là, avec ces anciens joueurs ?
Au départ, Fédération Russe, elle travaille pas comme Fédération Française dans le tennis. On est plus, on va dire, individuel.
OK.
Et donc là, bien Marat, il revient au tennis un peu.
Oui,
il était
vu.
Capitaine à TP Cup. Il est là en Australian Open. Je pourrais regarder des matchs. Déjà l'année dernière, il a commenté quelques matchs. Et je sais pas si tu sais, mais il a commenté mon final avec Nadal.
Ah, non,
sur une chaîne fédérale.
OK.
Et c'était Fireworks.
Ah ouais.
Il était monstrueux et tout le monde, autant ils ont discuté de match, autant ils ont discuté de Marat comme commentateur et c'était monstrueux. Ouais. Moi, je n'ai pas écouté, mais
okay. On t'a dit que c'était...
dit ouais, que c'était extraordinaire et dans le bon sens. Et après, comme j'ai dit, comme on est individuel, si quelqu'un de nous trois, entre guillemets, décide de lui prendre en équipe, je pense qu'il va être que content.
Ouais.
Et sinon, TP Cup, ils nous avons donné beaucoup de conseils,
ouais.
Beaucoup de conseils compétents. Quoi.
C'était sympa.
Parce que, ouais, c'était quand même un très fort joueur qui sait ce qu'il faisait dans le tennis. Quoi.
Et oui, ça savait tenir la raquette.
Ouais.
C'était quoi l'enfance de Daniil Medvedev en Russie? Tu es d'où en Russie?
Je viens de Moscou.
Okay.
C'était un... j'ai pas grand-chose à dire. C'était un bon enfance
okay.
où je faisais... tout ce que je voulais, c'est je faisais beaucoup de trucs au départ. Ma mère voulait me toujours être dans beaucoup, on va dire, des groupes, des stages.
Ok.
Je jouais aux échecs, je faisais le tennis, je faisais du natation. J'ai même un peu peinturé, mais je suis très nul. Je sais pas même
peindre.
Peindre. Ouais, je suis extra nul. Je pense qu'il n'y a pas une mec qui peindre moins bien que moi.
C'est vrai?
Ouais.
Tu continues ou pas?
Non, je fais rien. Mais comme je dis, ouais, je faisais beaucoup de choses. Je sais pas franchement pourquoi ça tombait sur le tennis, mais ça continuait. Quand j'avais 9-10 ans, je commençais à jouer à des tournois. Et finalement, avec Karen et André qui étaient dedans aussi déjà. Donc, mais il y avait 100 autres mecs qui sont plus là. Et ça continuait après Tennis Europe, ATF, et là tu dis ok, il faut essayer de devenir pro, et là je suis là.
Je dis ça parce que tu gagnes beaucoup d'argent maintenant. Je sais pas si tu viens d'un milieu très favorisé ou pas favorisé, tout ça, mais comment tu gères cette différence là s'il y en a une?
Oui, ça dépend. C'est un peu, ouais, c'est un peu difficile à discuter ça parce que. Bien sûr, quand j'étais jeune, je savais rien d'argent ou de quelque chose. Juste, ouais, on était classe milieu.
Ok.
Je pense pas qu'on était pauvre, mais
ouais.
On était pas non plus les plus riches. Et c'était, je sais que c'était difficile pour mes parents quelquefois avec le tennis. Ils étaient obligés de faire des décisions difficiles.
Ouais.
Pour il, mais comme je dis, en même temps, moi, jusqu'à un moment dans ma carrière qui était assez, on va dire, j'étais déjà vieux pour cette décision, j'ai rien décidé dans ma carrière, c'était mes parents. Et même, j'ai envie de dire, s'il y a un moment à 14 ans, ils m'ont dit, ok, on arrête le tennis, je pense que je vais être là, ok, c'est dommage, mais ok, ouais. Et donc, ouais, c'est ça. En ce moment-là, bah, c'est moi qui gère tout ça, avec ma femme, bien sûr, et j'essaie de ouais, juste le gérer bien.
On est à quelques jours de la finale de l'Open d'Australie entre Novak Djokovic et, on ne sait pas.
Allez,
je peux regarder le score.
J'ai mon téléphone qui
alors, attends, je ouais, regarde.
Qui est pas avec moi.
Donc, on va regarder en direct le live score.
Ouais, ça m'intéresse. J'aime bien savoir les scores du match tennis.
De l'Open d'Australie. See. Je capte. Alors, il y a 6-3 Zverev et 3-1 Team.
Ok, intéressant, intéressant.
Alors, tu vas nous dire, en connaissant ce score-là, tu vas nous dire lequel tu penses va gagner, comme, et on aura le résultat quand l'épisode sortira. Mais entre Zverev et Team.
Vraiment très difficile. Et pourquoi? J'explique pourquoi. Par exemple, à Londres, j'ai joué Zverev, dernier match. Moi, bien sûr, j'avais pas motivation. Sans passant, je pouvais pas me qualifier de groupe, mais il y a d'argent et je savais que si je gagne ce match, peut-être je vais finir quatrième. Ouais. Finalement, j'ai perdu le match, j'ai fini cinquième. Donc, je voulais le gagner quand même.
Ouais.
Et oui, Zverev,
il y a de l'argent en
ouais,
jeu.
Ouais, ouais, il y a quand même des points et tout ça. Et Zverev qui a très bien joué. Moi, je peux faire mieux toute la Londres. Mais ok, il a bien joué. Mais j'étais dans ma tête, franchement, il peut faire mal le Thiem. En plus, il a gagné l'année dernière, donc ils se sont bien à Londres. Et finalement, il a perdu 3-3.
Exact.
Et j'étais assez surpris. J'ai pas vu le match, mais j'étais juste surpris. Je me dis, contre moi, il a servi à 230 avec un bon pourcentage. Et donc, j'étais surpris, et c'est pour ça que là, c'est très difficile pour moi à dire, parce que je joue Zverev qui joue très, très bien là, ce tournoi-là. Je pense, il a perdu qu'en 7 contre Wawrinka, et c'est tout. Il a perdu en 7 sur tout le tournoi, mais Thiem qui juste vient de battre Rafa.
Exactement.
Ça, donc, il joue pas mal non plus. Donc, si tu veux, allez, je dis Thiem. Okay. Mais franchement, si je me trompe, j'ai pas d'effet parce que, comme je dis, je sais pas du tout. Ouais.
Et donc, il va jouer, donc, tu dis Team qui va jouer contre Novak Djokovic. Est-ce que, voilà, Novak va gagner son 8e Australian, tu penses?
Ça va être difficile pour l'autre, parce que Novak, là, c'était son 8e demi-finale à Australian Open.
Jamais perdu.
Et ouais, cette fois avant, s'il est un demi, il gagne le tournoi. Donc, franchement, c'est très difficile. En plus, ça va être sur Zverev qui était jamais en finale de Grand Slam, même s'il est, comme je dis, il a gagné des Masters, bien tout sûr. Ça, c'est quand même différent.
Ouais.
Novak qui était en, je sais pas, 27 finales, un peu d'expérience des finales quand même. Thiem qui était en 2, mais sur terre, ouais. Contre Rafa, qui, on va dire, c'est aussi différent. Donc, bien sûr, s'il faut mettre une favori, bah, ouais, c'est Djoko, même sans une question. Et après, comme on sait, le tennis, ça joue pas comme ça. Donc, franchement, j'espère que ça va être quelqu'un de ces deux qui gagne.
Une question aussi que je pose, c'est aujourd'hui, le Big Three, on parle de Federer à 20 Grand Chelem, Rafa à 19, Djoko à 16. Qui tu penses va gagner cette course-là?
En ce moment-là, je pense que c'est soit Rafa, soit Novak.
Okay.
Parce que Roger, encore une fois, sans dire quelque chose contre lui, il devient quand même vieux pour tennis. Donc, c'est plus en plus difficile pour lui. Là, par exemple, comme on a vu en Australie, il a gagné mes deux matchs incroyables contre Milman et Sandgren. Et finalement, sur Djoko, si j'ai bien compris, il était un peu blessé ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop.
Mais il est pas loin.
Avion, ouais.
Il est pas loin de gagner le premier set, quand même.
Ouais, mais tu vois, ensemble, physiquement, on va dire, ça commence à faire mal aussi.
Bien
mais
sûr.
Donc, pour moi, ça va être Novak ou Rafa parce que, bah, déjà l'année dernière, ils ont gagné deux chacun. Rafa, il peut gagner Roland Garros pour 10 années encore, je pense. Non, je rigole, mais peut-être 2-3 années facile, qui sait. Après, ouais, nous, on est le next gen, entre guillemets, on va essayer de gagner à nos places, ce qui est pas du tout facile, mais moi, franchement, j'aime pas du tout quand il y a des, si c'est juste des fans, c'est normal. Des fans, ils disent toujours des choses,
ouais,
parfois,
sûr,
mais si c'est des experts, là, j'ai envie de dire, quand il y avait Sampras, il a gagné 12,
14.
Et je me souviens, j'étais jeune. Et c'était, mais tout le monde a disait, OK, c'est imbattable.
Ah, mais c'est exactement ça.
C'est
exactement ça.
C'est fini. Ouais, c'est fini. C'est pour 100 années. Et là, il y a ces trois qui viennent. Et entre guillemets, ils battent, mais facile. Facile, c'est pas facile, mais déjà,
ouais, mais
Novak qui a 16. Ouais, il va peut-être avoir son 17e. Et imagine s'ils finissent avant tous les trois, on va dire. Et donc, c'est là où on voit que, bah, c'est pas nous qu'ils ont très mal. C'est ils qui sont fraîchement. En plus, c'est incroyable qu'ils ont venu, entre guillemets, d'un moment. À un moment, il y a trois qui jouent au tennis. Mais moi, je sais pas comment de jouer au tennis comme ça. Parce que moi, il y a des matchs où je me battre pour gagner, où je sens après le match, waouh, là, j'étais au bout. Et ils, quand ils sont au top, Tu regardes le match, tu poses même pas des questions. C'est 3-2 et 2 et ils sont en deuxième tour. 3-2 et 2 en troisième tour. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ça. Ouais.
Est-ce que parfois, justement, avec les Tsitsipas, les Zverev, les trucs, vous dites entre vous, il faut qu'ils arrêtent, quoi.
Ouais, moi, je dis, je quand même, je pose, je spend.
Ouais, tu passes du temps.
Je passe plus de temps avec Derousse.
Ok. Ok, avec Karen ouais, et Andrei.
Pour moi, au tennis, c'est presque tout le monde. C'est, on va dire, par mentalité et langue. Parce que, par exemple, David, il est avec les Français. Mais ouais, moi, je suis avec les Russes, avec des Biélorusses. On est tous comme ça. Et bien sûr, il y a des moments, comme j'ai dit, quand on regarde le télé, quand Novak a battu, par exemple, Rafa au TP Cup, c'était un match monstrueux de la part de Novak. On dit, mais on regarde, on dit, mais comment c'est possible de jouer comme ça? C'est pas normal, c'est pas normal.
J'aime bien que
les... Non, on joue bien, mais c'est pas normal.
J'aime bien que les joueurs qui viennent, qui sont allés 5, 6e, 7e mondial, ils disent, mais comment c'est possible quand ils regardent les
joueurs? Ouais, en fait, bien sûr, c'est compréhensible comment ils font ça, mais tu sais comment c'est difficile et tu dis, mais comment il le fait, quoi.
Ouais. Que fait Daniil Medvedev pour changer les idées hors dehors du tennis?
Moi, j'ai des trucs que j'aime. Par exemple, j'aime très bien faire jouer au PlayStation. Ouais. J'aime bien regarder les séries, les films avec ma femme. Ouais. J'aime bien aller dîner dans les restos. Donc, franchement, ça dépend jour à jour.
T'as
ce que
pas,
je
ouais.
fais. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir des choses que j'aime. Et c'est là où j'ai toujours, on va dire, était pas pris par des opinions d'autres, parce que bien sûr, quand je jouais PlayStation, quand j'étais jeune, il n'y a pas que mes parents, mais bien sûr, mes parents au début qui disent c'est pour rien, c'est nul, ça va te rapporter rien. Et c'est vrai, ça me rapporte rien. Mais sauf que j'ai quand même, en jouant au PlayStation et tout ça, j'ai réussi à être quatrième mondial, donc ça ne m'a pas posé trop de problèmes, ça. Et comme je dis, oui, moi, je me fais plaisir à faire des choses que j'aime bien faire.
Fais gaffe avec ce genre de phrases. Ils vont couper, ils vont dire « C'est en jouant à la PlayStation que j'ai réussi à être quatrième mondial. »
Ouais, ouais, bah, je sais ça parfois. Ouais, c'est difficile à vivre ça parce que parfois, tu donnes une interview et tu regardes le titre. Et tu dis « Waouh !» J'ai pas du tout fait ça, mais ça, c'est aussi, comme je disais au début, c'est tu le prends juste comme il faut, sauf si c'est vraiment quelque chose de grave. Et là, mais moi, ça ne m'est pas arrivé quand il y a quelque chose vraiment où je me dis « Waouh, c'est pas normal. » Ouais.
Oh, t'inquiète pas, là, je ferai attention.
Non, je sais.
Tu parles français couramment, tu vis en France, tu joues avec une raquette bleu-blanc-rouge, t'as un équipementier français, t'as un coach français. T'es français, en fait.
Ouais, j'ai pas que mon coach français, j'ai toute l'équipe autour de moi qui est français, qui devient bien sûr de beaucoup de gens. Il y a le physio que je vois ici à Caen, il y a le physio qui me suit parfois sur les tournois. J'ai mon entraîneur mental français, donc franchement beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas exprès que ça se fait comme ça, mais c'est bien sûr au départ, c'est le club où j'entraîne est français, l'entraîneur est français, donc bien sûr, si on cherche quelque chose pour moi et pour mon équipe, au départ, ça vient de France.
Ouais.
Après, comme c'est moi qui décide, si à un moment, je me dis, OK,
j'en ai marre.
Je peux plus, je sais pas.
Je peux plus les blairer, c'est
français. Je peux plus les blairer, c'est français. Je prends des mecs russes, mais moi, j'aime bien mon équipe, j'aime bien Lacoste, j'aime bien Technifibre, c'est avec Technifibre. Ça, c'est sans une blague. C'est avec Technifibre que je commençais à jouer bien. La première année que j'ai pris Technifibre, j'ai commencé à être top 100. Et c'est en ce moment-là, je n'étais pas trop professionnel, on va dire. J'étais quand même top 100. Franchement, moi, je me sens bien avec tout ça.
Juste une dernière question. Tu viens de le mentionner. Tu travailles mentalement avec quelqu'un?
Oui, je travaille depuis une année et demie.
D'accord.
Je travaillais avec quelqu'un d'autre avant, j'aime pas dire les noms,
parce que
je suis même pas sûr qu'ils veulent, même
Okay.
Et ça, avant, ça a pas. J'ai très bien aimé le mec, mais je trouve que si on regarde en arrière, ça a pas bien aidé mes résultats, entre guillemets. Et donc, j'ai essayé de changer. Et ça a aidé mes résultats, ça a aidé, on va dire, ma vie.
Ouais.
Ça a aidé à me sentir mieux comme un human being.
Ouais, comme un être humain.
Comme un être humain, et donc je continue.
Donc, ouais, heureux comme un être humain, donc heureux pour le joueur de tennis.
Oui, bien sûr, parce que pour jouer bien au tennis, il faut être bien dans sa vie. C'est la chose que j'ai pas compris pour longtemps et que je comprends maintenant, et c'est pour ça que j'essaie d'être le plus possible bien dans ma vie pour jouer bien au tennis.
Ben, ça me paraît bien pour finir cet entretien. Merci beaucoup.
Parfait.
Daniil Medvedev.
Merci beaucoup pour toi.
Le joueur de tennis est un bonheur à voir jouer, et l'être humain n'est pas mal non plus. On s'en doutait, il le confirme avec sa simplicité. Montrer ses championnes et ses champions sous un autre angle, c'est le pari d'échange. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. À bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.